Bonjour, je m'appelle Elisa Vaiana. Vaiana parce que je suis née à Tahiti, donc à l'autre bout du monde. J'ai grandi ensuite dans le sud de la France, mais j'ai toujours eu cette âme d'exploratrice. Et donc à mes 25 ans, j'ai réalisé mon plus grand rêve, un tour du monde à la rencontre de femmes inspirantes. J'ai créé une association, WoWo, Women of the World, qui a pour mission de créer des ponts entre femmes de divers horizons et de s'inspirer les unes les autres. Donc j'ai fait 15 mois en sac à dos.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
Bonjour Elisa, ça va bien?
Oui, ça va. Enchantée.
C'est trop beau ici.
Bah après avoir voyagé dans le monde entier, je peux dire qu'ici c'est vraiment une région
assez magnifique. J'adore. Ouais. Donc là on est au Pot-de-Provence, on est en plein cœur des Alpilles,
oui.
Et en plein cœur de la Provence également, pas loin de Saint-Rémy-de-Provence. On est quoi, à 5-10 km de Saint-Rémy-de-Provence. Ouais. Dans cet hôtel-restaurant qui est celui de ta famille.
Exactement.
On a une superbe vue sur le château des Baux.
Oui.
Et toi, tu es née dans cet hôtel-restaurant?
Non, alors je suis née à Tahiti, d'où mon deuxième prénom, donc à l'autre bout du monde.
Okay.
Donc j'ai toujours eu cette âme d'exploratrice en moi,
ouais.
De découvrir au-delà de l'horizon. Et je me rappelle par exemple à mes 5 ans, j'ai reçu un globe pour mon anniversaire et je m'asseyais exactement sur ce rocher-là. Et je le tournais pendant des heures à m'imaginer déjà aller au-delà des Alpilles. Parce que ma chambre, c'était celle qui était là-bas, au bout.
Ouais.
Et après, je suis partie 15 mois en tour du monde. Et comme les trois enfants, on est partis de la maison, mes parents ont décidé de changer ses chambres en chambre d'hôtel. Et du coup, quand je suis arrivée, j'avais ma vie en sac à dos et dans des cartons.
Ton deuxième prénom, c'est quoi?
Vaiana, prénom tahitien. Et du coup, ça a beaucoup participé à mon identité, oui, d'exploratrice, comme le film Disney d'ailleurs, d'aller au-delà de l'horizon.
Tahiti, tu y es resté combien de temps?
Mes parents, ils sont restés 5 ans et quand je suis née, on est reparti. Après, j'y suis retournée deux fois.
Donc là, on vient d'arriver dans une chambre en fait de l'hôtel et je vois qu'il y a plein de photos qui sont sur un lit. C'est quoi ces photos?
C'est toutes les photos qui étaient exposées à la galerie de Manville, donc dans une cave au Baux-de-Provence. C'est des photos que j'ai prises pendant mon tour du monde de ces femmes. Alors parfois, comme j'étais en immersion dans leur quotidien, c'est vraiment chez elles. Et puis parfois, c'est des photos prises sur le vif de femmes comme cette bergère népalaise que j'ai rencontrée à la fin de mon trek au Népal. Bien sûr, j'ai eu son autorisation. Elle était très fière de poser pour moi. Et c'est une expo que j'ai créée en collaboration avec Alexia et Chloé, deux autres aventurières qui sont parties sur d'autres chemins.
Alors, la thématique du voyage, c'était aller à la rencontre des femmes inspirantes. Pourquoi cette thématique?
Parce qu'au cours de mes voyages passés, j'ai toujours été très touchée par les connexions que j'ai faites sur le terrain. Et j'avais envie de partager la richesse de ces rencontres avec, en amplifiant leur voix, puisque c'est des voix qu'on n'entend pas souvent. Mais ces femmes, elles ont beaucoup de messages inspirants à porter qui voilà, nous donne la force à nous aussi de se dire que tout est possible, la résilience, on peut se reconnaître en l'autre.
Mmh. Et comment tu les as choisies, les femmes que tu es allée rencontrer? D'ailleurs, comment on rencontre des femmes inspirantes, tu vois?
Alors, il y en a que je connaissais déjà. En fait, avant de partir, je savais déjà que j'allais aller chez elles parce que j'ai fait un master en développement international. Donc, par exemple, j'avais déjà un ami en Inde qui m'a dit « tu peux venir chez moi ». Il m'a dit « ma mère, elle est OK ». Et ensuite, c'est sur place, sur le terrain, en parlant de mon projet. On m'a dit « tu devrais aller rencontrer cette femme ». Donc voilà, je me déplaçais. Mon itinéraire a beaucoup changé. Je me suis retrouvée dans des coins que... je pensais même pas que ça existait sur Terre, donc se laisser aller au gré des surprises. Alors j'ai commencé par Montréal, et d'ailleurs là c'était difficile de trouver une femme qui était prête à s'ouvrir, c'est encore assez occidental, donc plus pudique peut-être. Ensuite je suis allée du coup à New York, puis au Mexique, Guatemala, j'ai fait l'Inde, le Népal, la Thaïlande où je suis allée vraiment à la frontière avec le Myanmar, puis Sydney, la Nouvelle-Zélande et Tahiti, mon île natale. 15 mois, oui, en sac à dos.
Et toute seule?
Toute seule. Après, je ne me sentais jamais vraiment seule parce que j'allais toujours dans des familles en immersion. on rencontre toujours du monde en voyage. Et parfois, justement, j'avais besoin d'une bulle d'air à moi toute seule. Donc, ça m'arrivait voilà, de prendre ma chambre Airbnb juste pour me reposer.
Quand on est une jeune femme qui voyage seule à travers le monde et à travers divers pays, à des moments, on se sent un petit peu en danger ou en tout cas, on peut avoir peur?
Alors, c'est ce que tout le monde me disait avant de partir, fais attention. Et puis finalement, en fait, on nous fait penser peut-être que le monde est plein de dangers. Et c'est sûr, il faut garder son bon sens. Mais moi, j'ai rencontré que des personnes formidables, prêtes à t'aider. Et voilà, il faut se fier à son intuition. Quand je ne le sentais pas, je partais. Mais l'endroit où je me suis sentie le plus en insécurité, c'était à Paris. Donc, c'était en France. C'est là où on m'a embêtée. Sinon, peut-être au Guatemala aussi, où je faisais attention que personne ne me suivait. Parce que même les locaux le disent. Voilà, il peut se passer des mauvaises surprises, mais moi en tout cas, là pendant 15 mois, c'était que des belles rencontres.
Et ta famille, tes proches, quand tu leur as dit que tu comptais aller faire un tour du monde à la rencontre de femmes inspirantes toute seule, qu'est-ce qu'elle en a pensé, la famille?
Alors, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour leur dire, j'avais déjà pris tous mes billets, comme ça je savais qu'ils n'allaient pas me dépersuader. Et puis au final, ils étaient très fiers de moi. Ils savaient que je vibre pour le voyage, que c'était mon rêve de petite fille. Donc finalement, ils étaient heureux que... Alors, j'avais pas de billet retour. Ça les inquiétait un peu. Et j'ai fait la surprise pour rentrer à Noël. Donc plein d'émotions. Et là, je sais que j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Donc c'est plus compliqué parce que là, je reçois des jugements. Mais t'es sûre, tu veux pas te poser un petit peu, la stabilité. Mais finalement, la stabilité, c'est, pour moi, c'est d'être heureuse. Et je sais que je suis heureuse en voyageant. Ben j'avoue, le retour a été compliqué après l'excitation de revoir tout le monde, se remettre dans une petite routine. Après, ça va qu'on est dans les Alpilles, donc quand même région magique. Après avoir fait le tour du monde, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'être ici en France. Mais je pense que l'exploration n'est pas finie, ce n'est que le début.
Là, c'est quoi qu'on a sous les yeux? Je vois qu'il y a un grand livre avec une grosse carte dessus.
Oui, alors ça, c'est mon journal où j'écris des notes qui me passent par la tête. Et voilà, chez moi, j'ai plein de cartes du monde, donc ça m'entoure. Et j'ai noté l'histoire de ces femmes. Donc j'écris un livre actuellement, vu que j'ai recueilli beaucoup de témoignages. C'est un livre où c'est un voyage intérieur et extérieur, puisque j'emmène le lecteur avec moi dans mon voyage à la rencontre de ces femmes. Chaque chapitre, c'est une femme qui délivre un message. Et à la fin du chapitre, il y a des questions ou des actions à mettre en place pour soi-même, pour permettre aussi d'évoluer, comme moi je l'ai fait tout au long de ce voyage.
A priori, il sortira quand ce bouquin?
J'espère pour mars 2025.
Aujourd'hui, tu nous proposes de redémarrer ton voyage finalement. La première femme que tu as rencontrée à Mayotte, elle se prénomme comment?
Shamsia. Et c'est une jeune mère qui a été orpheline dans son adolescence, puis qui s'est mariée très jeune, elle a eu un enfant et elle a réussi à échapper à son mariage violent en allant dans un centre d'accueil. Et donc c'est là où je l'ai rencontrée. Et on était sur cette plage donc idyllique, sable blanc, face à la mer. Et là, elle commence à me dérouler son histoire tragique.
Et quand on entend cette femme parler de son histoire qui est dure à entendre, comment soi-même on réagit, comment toi t'as réagi, Elisa, et puis comment elle réagissait en racontant cette histoire?
Bah finalement, ça a été un peu thérapeutique, je pense, pour elle aussi, un peu comme une séance de psy, même si je ne suis pas psy, mais ça lui a rappelé des souvenirs, mais finalement, ça lui a permis aussi, je pense, de relâcher justement à la mer. À la fin, on a pris une noix de coco, on l'a jetée dans la mer en lui disant, voilà, tout ça, c'est le passé. Et puisqu'à la fin de l'interview, je lui ai beaucoup posé de questions sur ses rêves, et elle m'a dit, ah, j'avais oublié tout ça. Et ça l'a à la fin, elle est sortie avec le sourire, et elle m'a dit, oui, j'ai l'espoir. Et puis, il y avait son fils qui jouait là, à côté, donc finalement, c'était assez joyeux. Et moi, comment je l'ai ressenti? Je pense que mon hypersensibilité, c'est une force qui me permet de connecter avec ces femmes-là. Et c'est quelque chose que j'ai appris pendant mon tour du monde, c'est que parfois j'étais peut-être trop sensible et qu'il fallait que moi aussi que je me protège en fait de ce qu'on me raconte. Donc cette histoire, je l'entends, je suis une porte-parole, mais il faut que je reste forte moi aussi.
Tu as une photo de Shamsia?
Shamsia, voilà, elle est ici avec son fils. J'allais bientôt quitter l'île de Mayotte, donc je lui ai proposé de prendre mes habits. Et ça, c'est une pratique que j'ai fait beaucoup autour du monde, entre femmes, qu'on s'échange nos habits. Ouais. Donc moi, j'avais mon sac à dos de 12 kilos, j'étais très contente parfois d'emprunter les habits de ces femmes. Et puis Shamsia était très contente de récupérer mes habits.
Et elle est avec son enfant qui est dans ses bras. Il a une jolie casquette d'ailleurs sur la tête.
Shamsidine, oui. Il était Tout, il sautait de partout, il a mis du sable de partout, c'était très chouette de l'avoir aussi à nos côtés. Elle peut pas le faire garder, mais finalement ça l'a pas empêché de se dévoiler. Donc de Mayotte, on prend l'avion, on traverse l'Atlantique et on arrive à Montréal où j'ai rencontré Julie. Et puis après Julie, j'ai pris un bus de nuit pour aller jusqu'à New York rencontrer Nathalie. Et donc Nathalie, elle a des origines latines. Ses grands-parents ont émigré de Colombie et du Costa Rica. Et c'est vraiment l'American Dream parce qu'ils ont monté les échelons. Et Nathalie, elle fait pareil. Elle est en agence immobilière. Et c'est un secteur où il y a moins de 10% de femmes. Et elle vient avec sa confiance débordante. Et elle dit non, mais tout est possible. Il faut juste y croire et ne pas se laisser influencer par les autres. Et elle m'a beaucoup inspirée à être, voilà, à marcher comme Beyoncé, à ne pas trop douter, à juste, elle dit, just do it.
C'est quoi marcher comme Beyoncé?
Alors par exemple, j'ai une anecdote. On rentrait un peu dans un club latin, mais secret, et donc il fallait avoir un pass. Et elle a dit non, mais c'est pas grave, on va faire genre, on est VIP. Et du coup, on est rentré, elle m'a dit voilà, tu mets la tête haute. Et on a mis du rouge à lèvres et on est rentré dans le club sans
Et ça a
passe.
marché.
Et ça a marché. Parfois, c'est juste en fait son état d'esprit intérieur qui déborde à l'extérieur. En tant que femme, on peut avoir beaucoup de doutes, même sur notre apparence physique. Et finalement, je trouve que la beauté, elle rayonne quand on n'a pas peur d'être qui on est.
Elle habite où à New York? Elle était sur Manhattan?
Oui, alors elle est dans l'Upper East Side. Et puis, elle prend chaque jour le subway pour aller dans son bureau qui est à Manhattan, au Rockefeller Center. Elle a mon âge, donc aujourd'hui 27 ans, et c'est resté une amie que j'appelle quand je commence à douter. Voilà, elle m'a vraiment appris work hard, play hard. Donc, il faut beaucoup travailler, mais voilà, le week-end, c'est la fiesta. Et c'était chouette de découvrir New York sous ses yeux, sous l'angle en fait d'une locale, parce que j'étais déjà allée 3 fois à New York, mais c'est vrai que j'avais fait un peu les trucs touristiques. J'aimais beaucoup l'énergie de cette ville, mais là je l'ai redécouvert by night aussi, et puis avec cette énergie de businesswoman. Donc en plus c'était joli parce qu'il commençait à faire les couleurs de l'automne, donc Central Park, c'était une flambée de rouge, orange, c'était très chouette.
Après New York, on quitte Nathalie. Où est-ce qu'on va?
Alors j'ai fait le Mexique, le Guatemala, mais surtout un pays qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Inde. Donc là, on arrive à Mumbai, une ville qui bouillonne de bruit, d'odeurs et de gens aussi qui sont très curieux de voir une blonde. Donc c'était peut-être un peu trop pour moi. En fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré deux femmes avec des histoires compliquées. Donc une femme qui s'est dévoilée anonymement. À Kamathipura, c'est un quartier qui est connu pour la prostitution. Donc brièvement, son histoire, c'est qu'elle a été trafiquée à ses 13 ans. Elle est de Calcutta, donc de l'autre côté. Et puis sa tante a dit, oui, viens me rejoindre à Mumbai, j'ai un travail pour toi en femme de ménage. Et finalement, elle a compris en arrivant à Mumbai que elle allait être voilà trafiquée. Donc elle m'a parlé de la violence, de la discrimination aussi psychologique, sociétale, puisqu'elle a été délaissée par sa propre famille. Voilà, là, elle a une cinquantaine d'années, donc ça fait 40 ans qu'elle est dans ce quartier. Je suis allée visiter sa petite chambre où en fait la cuisine est vraiment sous son lit. C'était des toutes petites marches avec voilà des cafards. Mais à la fin, il y a toujours des moments de connexion très forts entre moi et ces femmes parce que je lui demande une question: qu'est-ce qui te rend heureuse? Et elle me dit bah, là, ce moment qu'on partage ensemble où quelqu'un s'intéresse à moi. Et du coup, là, on s'est pris dans les bras et ouais, c'était très. Et des moments comme ça de connexion, j'en ai eu beaucoup. Avec des femmes qui. On a des vies complètement opposées, hein, parce que moi, je suis une jeune occidentale qui a eu beaucoup de chance, finalement, dans la vie, d'avoir cette liberté de voyager. Et elle n'a pas eu ces choix-là. Et finalement, on partage quand même quelque chose ensemble.
Est-ce que tu avais l'impression dans ce voyage que tu étais souvent une personne qui permettait à celle que tu rencontrais de enfin s'exprimer, de enfin exprimer ce qu'elle ressentait depuis quelques mois, quelques années?
Exactement, c'est l'opportunité de leur donner une voix, de visibiliser leur réalité. C'est souvent des femmes qui sont dans l'ombre, qu'on ne s'intéresse pas vraiment à elles. Et pourtant, elles ont des histoires à raconter qui sont pleines de résilience, pleines de courage. Et puis, il y a toujours quand même cet optimisme d'aller de l'avant et une sensibilité, cette volonté de s'ouvrir en tant que femme. Je pense qu'on a moins peur peut-être de montrer nos émotions et donc de toucher l'autre. Puis j'ai fait, après cette femme anonyme, j'ai fait Manda dans un autre bidonville de Mumbai. Là aussi, une histoire qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle a été mariée de force avec un alcoolique plus âgé. Ça m'a rappelé, moi, des souvenirs. Et donc, je me rappelle être dans mon auberge de jeunesse le soir à regarder les billets d'avion pour rentrer à Marseille parce que je me suis dit, pour ma santé mentale, là, je ne veux plus encaisser tout ça. Et j'ai appelé mon amie en France et elle m'a dit, mais tu sais, ça ne sera pas un échec si tu rentres, ça sera peut-être juste une pause pour mieux repartir. Et finalement, après ça, j'ai fait pendant 10 jours une retraite silencieuse. Le Vipassana, ça s'appelle, de méditation. Et là, ça m'a fait un reset de mes pensées et je suis repartie reboostée. Alors, ah, ça c'était marrant aussi, c'était une femme que j'ai rencontrée dans la rue à Mumbai et elle m'a dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Et après, elle a appelé sa fille. Donc, je me suis, elle vendait des petits oignons verts là. Et ça, c'est Manda. Donc, ça, c'est la traduction. En fait, je suis restée dans cette famille. Et c'est très commun en Inde, enfin surtout dans les villes, d'avoir une femme qui vient tous les jours cuisiner, nettoyer parce que ça coûte pas cher. Donc ça, c'est une famille de classe moyenne. Puis ça crée de l'emploi pour ces femmes-là de quartier pauvre. Et donc je lui ai dit, est-ce que je peux interviewer votre... Ça s'appelle une baye. Et donc pendant l'interview, Manda, elle me dit... Oui, je suis très fière d'avoir pris un crédit auprès de cette famille et de l'avoir repayé après mes longues journées de labeur, parce qu'elle va dans 4 maisons différentes. Et j'ai acheté une maison avec ce crédit. Donc moi, je m'attendais à une vraie maison. Je disais, est-ce qu'on peut aller la visiter? Et en fait, je la suis, tu vois, pendant longtemps, là, dans des petites rues et tout ça. Et en fait, c'était un bidonville, quoi. Et dans cette pièce, c'est une pièce où ils dorment à 5, où il y a... En fait, ça, c'est la cuisine et en même temps la salle de bain. Donc, il n'y a aucune intimité. Et là, tous les soirs, ils défont les matelas et ils dorment tous là dans cette même pièce. Et elle a 3 enfants. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes interviews en Inde. Les femmes, c'est très dur de parler d'elles parce que je pense qu'il n'y a pas le sens du jeu. C'est toujours la famille. Et je dis, oui, mais toi, c'est quoi ton aspiration à toi? Et non, c'est toujours les enfants d'abord. Se mettre en priorité, c'est plus compliqué. Voilà. Et à la fin, elle m'a bénie. Puis après, elle m'a touché les pieds. C'est un signe de respect. Elle était honorée aussi que je vienne découvrir sa maison. Elle était très fière, Manda, en fait, de me raconter toute son histoire. Je me sentais impuissante. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parce qu'en Inde, il y a vraiment ce sentiment aussi que c'est le karma, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Alors qu'au Mexique, par exemple, le mouvement féministe, il est très vocal. Donc, il y a beaucoup de violence, mais c'est quelque chose qui est dénoncé, dont on parle, dont on sait qu'il faut que ça change. Alors qu'en Inde, ça fait partie de la culture, presque. Et ça, c'était dur avec mon regard d'occidental. En fait, il faut être très ouvert d'esprit. C'est dire que j'ai grandi avec ces valeurs, donc pour moi, ça, c'est pas normal. Mais quand je suis en Inde, finalement, je suis juste à l'écoute. Il faut pas que j'émette de jugement.
En Inde, donc, tu as finalement continué ton voyage que tu imaginais peut-être arrêter à ce moment-là. Mais non, il y a eu un regain d'énergie après la méditation silencieuse. Et du coup, il se passe quoi ensuite?
Je suis allée dans une tribu juste à côté. Donc, c'était à 4 heures de Mumbai. J'ai pris plusieurs bus. Puis à la fin, c'était un tout petit taxi. On était tous entassés. Et j'arrive à Kurunguadi, donc sans connexion. Donc là aussi, ça a bien prolongé la méditation. Sans douche non plus, donc j'ai vécu vraiment pendant une semaine où je dormais à même le sol. C'est des maisons qui sont faites à partir de bouses de vache séchées et je dormais sur mon tapis de yoga. Et là, j'ai été bluffée par la force physique aussi des femmes. Donc là, on a vu beaucoup la résilience mentale des femmes qui peuvent endurer toute épreuve dans la vie et toujours se relever. Mais là, c'est vraiment la force physique, puisque tous les jours elles vont chercher l'eau à 30 minutes à pied sous un soleil de plomb, et puis elles font plusieurs allers-retours et elles portent des pots d'eau en équilibre sur leur tête. Donc moi, j'ai porté un de ces pots d'eau en voulant les aider. C'est 10 à 15 litres d'eau, donc c'est super lourd.
Et tu as réussi À ne pas le faire tomber.
Non, justement, j'étais en équilibre. C'était compliqué. J'ai fait 10 mètres et surtout, c'est mon dos que j'arrivais pas. C'était trop lourd. Et il y a des filles, elles commencent à peine à marcher et elles font déjà ça avec un seau d'eau. Et là, par exemple, vous voyez, donc il y a Sunita qui en porte 3. Là encore, elle a des flip-flops et il y en a qui sont vraiment pieds nus. Et c'est une marche qui est exclusivement féminine, puisque les hommes sont là assis et ils n'aident pas, ils disent que c'est une tâche domestique pour les femmes.
Et donc là, sur celle-ci, on voit une autre femme qui porte ça sur un joli chemin, juste devant des grandes montagnes. On est où là ?
Montagne sacrée. Donc on est dans le Maharashtra, c'est au nord-ouest de l'Inde, dans une tribu qui s'appelle Kurungwadi. Donc difficile d'accès, mais avec des énergies assez magiques. Et des femmes qui ont beaucoup de caractère.
C'est-à-dire
Parfois, je trouvais qu'en Inde, comme les femmes n'ont peut-être pas l'habitude de s'ouvrir, elles ont du mal à s'exprimer. Alors qu'elles, elles n'avaient pas peur du tout d'avoir une voix. Ouais. Et là, j'étais vraiment la seule blonde. Enfin, c'était la première fois, je pense, qu'une étrangère venait. Et donc, tous les enfants... venaient me toucher les cheveux, ils étaient très curieux. Et les femmes, d'ailleurs, le soir aussi, après avoir fini toutes leurs tâches, il y avait un petit groupe de femmes qui se réunissaient, qui apprenaient à lire et à écrire, puisqu'il y a un nouveau programme par le gouvernement qui dit que si un groupe de femmes se réunit pour faire un business, elles peuvent recevoir un crédit de l'État. Mmh. Le problème, c'est qu'elles ne savaient même pas compter pour les sous ou juste signer le contrat, donc... Il y avait une professeure qui avait volontairement dit eh ben, le soir, si vous voulez, on se réunit et... pour avoir les compétences primaires pour pouvoir monter un petit business entre elles. Donc la sororité, l'entraide entre femmes. Après, je suis allée au Népal. C'était chouette parce qu'après l'Inde qui est intense, le Népal c'est beaucoup plus calme. Et j'ai fait un trek de 4 jours. Et en redescendant de ce trek, je tombe sur cette bergère. Donc en fait, c'était une journée où il a beaucoup plu.
Elle est belle, cette photo.
Ouais.
Elle est magnifique.
Elle renvoie beaucoup d'énergie positive, calme, bienveillante. Comme je disais, je redescendais de ce trek, il pleuvait. Puis tout d'un coup, il y a ce rayon de soleil. Donc je m'assois sur le flanc de cette colline. Je vois cette bergère avec ses chèvres et son bâton qui lance des cris. Et puis elle me regarde, elle sourit. Et elle vient s'asseoir à côté de moi. Et là, je lui demande justement, est-ce que je peux prendre ta photo ? Elle me dit oui. Et puis, on est restés une heure assises toutes les deux à regarder le coucher de soleil. Et finalement, c'est une femme que je ne connais pas son histoire, mais que j'ai quand même partagé un moment intense. C'est des rencontres qui peuvent paraître banales et furtives, mais qui en fait m'ont renvoyé beaucoup de bienveillance et d'amour. Parfois, il n'y a pas besoin de langage pour se connecter à une personne. C'est un langage universel.
T'arrivais à rigoler, à plaisanter avec elle, t'arrivais à converser réellement avec elle ?
Non, par contre, d'ailleurs, on est parti en fou rire parce qu'on essayait de dialoguer, puis on n'arrivait pas avec les signes et tout ça, et puis du coup, on est juste restés assises pendant une bonne heure avec ce coucher de soleil. C'était un moment fort aussi. Alors après, je suis allée en Thaïlande. Donc Thaïlande, je l'avoue, avoir été un peu au début déçue parce que c'est touristique, assez occidentalisé. Mais grâce à une amie qui a entendu parler de mon projet, elle m'a dit « Viens, moi je travaille dans une organisation avec des femmes réfugiées qui sont incroyables. Là, je ne peux pas te promettre que tu vas rencontrer quelqu'un parce que pour des raisons de sécurité, d'éthique, de confidentialité. Mais viens sur place. » Donc voilà, je prends encore un bus de nuit. En plus, dans le bus de nuit, la femme à côté de moi, elle vomit. Donc c'était vraiment horrible ce trajet. J'arrive à 4h du matin. Mon auberge de jeunesse était encore fermée parce que je voulais prendre une douche. Mais c'était... Donc là, j'ai regardé le lever du soleil. Je dis bon, j'ai pas le choix, j'attends. Et je suis restée une petite semaine, mais c'était vraiment compliqué de rencontrer quelqu'un là-bas. Et le dernier soir, j'ai un match de foot féminin. Et en fait, sur le bord... je rencontre Ei et je commence à parler avec elle. Et finalement, c'est elle qui commence à se dévoiler, en fait. Donc parfois, c'est inattendu au dernier moment. Et là, du coup, elle m'a raconté, donc elle était au Myanmar. C'était une professeure des écoles. Et en 2021, il y a eu le coup d'État. Et c'est son mari d'abord qui organisait un peu des réunions clandestines à leur maison. Et elle faisait juste le thé. Et en fait, petit à petit, elle a commencé à participer à ces réunions et à dire « c'est pas normal que mon école, elle ferme. C'est pas normal que... » Voilà, qu'elle voyait sa vie changer, en fait, avec le contexte politique, les militaires qui rôdaient dans la rue et tout ça. Donc, elle a commencé à elle-même être leaduse de protestations pro-démocratiques pendant la nuit. Et un soir, il y a les militaires qui sont arrivés chez elle. « Elle est où la professeure ? Elle est où la professeure ?» Et heureusement, ils ne connaissaient pas son prénom et les voisins sont restés silencieux. Elle avait déjà préparé sa valise, prête à partir. Donc, elle s'est enfuie par la porte derrière avec son fils. Et elle a traversé jusqu'en Thaïlande par frontière terrestre. Donc là, elle est réfugiée politique, mais illégale, en Thaïlande. Elle m'a raconté ça avec beaucoup de fierté. Et le moment où elle a été émue, c'est quand je lui ai parlé de sa famille. En fait, elle avait peur pour son fils. Quand je lui ai dit « Est-ce que tu te sens libre ?» Elle me dit « Non. » Mais quand je lui ai dit « Est-ce que tu te sens puissante ?» Elle me dit « Oui. » « C'est quoi la puissance pour toi ?» Elle me dit « C'est l'amour. » Et je pense que les femmes, on est porteuses de cet amour envers la famille, envers nos communautés. Et pour l'amour, on pourrait faire n'importe quoi.
La suite de ces rencontres avec les femmes du monde entier, t'as mené où ?
Thaïlande, je suis allée à Sydney, mais c'était juste un stop pour aller en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré une Maori qui était très fière de ses ancêtres. Et puis après, je suis allée en Polynésie. Là aussi, j'ai rencontré Océane, donc qui est ce qu'on appelle demi. Donc elle a un père français et une mère polynésienne, et donc métisse en fait. Et elle m'a aussi beaucoup parlé de son identité, de trouver sa place dans cette culture.
Elle avait des difficultés à trouver sa place,
oui, non ? Parce qu'en fait, elle est blanche de peau. Donc, comme moi, finalement, je suis née à Tahiti, mais on est typé ce qu'on appelle popa, c'est les blancs là-bas en Polynésie. Et donc, elle a eu beaucoup de remarques, mais pourtant, elle fait de la danse polynésienne, elle a les tatous polynésiens, donc elle est vraiment à fond dans la culture. Mais c'est en grandissant après qu'elle a dit « je m'en fous du regard des autres, ce qui compte c'est que je sois moi-même et moi je me sens polynésienne ». Elle a fait un semestre d'échange en Australie, elle m'a dit « ça m'a pas du tout plu » et donc elle m'a dit « moi je veux vivre ici, je veux continuer à danser ». Après Tahiti, je suis rentrée en France.
J'ai fait la fin ?
Ouais, j'ai fait la surprise à Noël.
La suite pour toi, c'est donc le livre. Ça a été l'exposition de photos qui va continuer d'ailleurs, cette exposition de photos. On va pouvoir à nouveau voir ces belles photos.
Peut-être à Paris.
Qu'est-ce que tu dis à toutes les femmes qui nous écoutent et qui doutent de partir en voyage seule à travers le monde ?
Il faut s'écouter. Écouter son cœur, ça nous donne beaucoup de courage. Malgré tous les doutes, c'est normal d'avoir peur en fait finalement. Mais si vraiment on entend ce qui fait vibrer notre cœur, ça nous permet de dépasser tous nos doutes et de croire que tout est possible, ne pas se mettre de limites. Parce que vraiment, en tant que femme, j'ai vu des choses incroyables. Et donc, si elles l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et puis, vous réalisez en fait, en le faisant, qu'on a cette force en nous, on retrouve les capacités en nous et ça nous rend plus fortes. Et donc, justement, la suite des aventures va continuer, c'est sûr. Après ma saison, là, je suis serveuse, mais je suis prête à repartir.
Le sac à dos est déjà prêt, il est là.
Exactement.
Les aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.